Bienvenue dans l'univers de Vocal, le podcast où on brise tous les clichés et on parle librement de ce qui nous touche au quotidien. La maternité, le mariage, l'intimité, la foi en Christ et bien plus encore. Ici, il n'y a pas de filtre, pas de tabou, on aborde tout de manière complètement décomplexée. Chaque épisode est une invitation à discuter de sujets profonds, parfois délicats, mais toujours avec une touche d'humour et de bienveillance. Dans ce troisième épisode de Vocal, j'ai le plaisir de recevoir Danielle. Danielle est une femme inspirante aux multiples facettes. Ingénieure, créatrice de contenu mode et femme de foi. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, It's Danielle, pour suivre son actualité. Danielle a vécu, elle a aimé, elle a douté et elle a surtout appris. À seulement 26 ans, elle a déjà traversé des épreuves qui l'ont transformée et elle a accepté de nous partager son histoire avec beaucoup d'authenticité. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes. Cette pression d'être la fille parfaite, cette quête insatiable de validation qui peut nous enfermer dans des schémas toxiques. Mais aussi, nous allons parler de l'après. Comment on se reconstruit après un divorce? Ou encore pour celles qui n'ont jamais été mariées, comment on se reconstruit après un échec amoureux. Et surtout quand tout cela se passe dans un cadre religieux, dans notre cas, dans l'église. Comment on déconstruit tout ça? Comment on comprend ce qui se passe avec nous? Et surtout comment on avance? Avant de commencer, j'aimerais remercier la librairie Café Olivris qui a accepté de nous accueillir pour cette conversation sincère, profonde et bien nécessaire. Holy Voice, c'est le coin café-librairie où vous pouvez trouver votre nouvelle Bible ou tous les ouvrages chrétiens qui peuvent vous intéresser. La librairie est située au 1080 rue Saint-Pierre à Orléans, ici à Ottawa. Maintenant que la table est dressée, accrochez-vous. Les deux prochains épisodes risquent de résonner en vous bien plus que vous ne l'imaginez. Bonjour Danielle, alors je suis ravie de t'avoir en tant que première invitée sur Vocal. Comme je l'avais prévu et je l'avais promis aux auditrices, cette saison elle est complètement différente dans la mesure où je ne suis pas la seule à faire un partage d'expérience, mais surtout je voulais mettre mes auditrices, ou en tout cas toutes les personnes qui me suivent, à l'honneur. Alors on va aller directement dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter, alors vas-y.
Bonjour Sarah, quel honneur d'être à Vocal aujourd'hui, merci. Alors, mon nom est Danielle, comme tu l'as dit, j'ai 26 ans et je suis originaire du Bénin. Ça fait, je pense, à peu près 13 ans que j'habite maintenant au Québec. Et voilà, j'ai étudié en ingénierie et puis voilà, je travaille et puis j'essaie de poursuivre mes autres rêves et puis de servir le Seigneur.
Est-ce que tu as toujours vécu au Bénin ou est-ce que... Tu es venue directement du Bénin au Canada. En tout cas, parle-moi un peu de toi, parle-moi un peu de ton vécu, parle-moi un peu de la jeune Danielle. Je veux tout savoir.
Oula, à 5 ans, j'ai déménagé en Guinée-Conakry, donc tout près de la Côte d'Ivoire. Et je suis restée là jusqu'à l'âge de 14 ans. Et c'est à 14 ans que j'ai déménagé au Québec, au Canada. La petite Danielle a toujours été une jeune fille quand même assez joyeuse, un peu réservée dans son coin, mais assez folle avec les personnes qu'elle aime. Et voilà, j'ai eu une enfance assez joyeuse avec mes parents à Conakry avant de déménager ici.
Et donc, pendant combien de temps est-ce que tu as vécu en Guinée avant de venir au Québec?
En tout, j'ai passé 9 ans en Guinée.
Donc, tu as vécu 9 ans en Guinée. Donc, ça veut dire que tu as fait une bonne partie de ta scolarité, j'ai envie de dire primaire, année collège en Guinée. Comment c'était? C'était quoi le contexte familial? Est-ce que tu as des frères? C'est un peu quoi en fait la vie à la maison, la vie à l'école? C'est comment en fait? Parle-nous un peu de ça.
Oui, j'ai des frères et sœurs, je suis l'aînée, donc je suis la fille aînée de mon père et de ma mère. À la maison, on a des parents qui sont très protecteurs, très aimants et qui sont très stricts aussi. Également. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. On allait à l'église tous les dimanches. Tu ne peux pas rater l'église un dimanche. Et voilà, il y avait beaucoup aussi l'accent sur l'académie. Donc, vraiment, tu es supposé exceller à l'école, mais aussi à la maison, les travaux ménagers, être la fille parfaite. Donc, beaucoup de pression de ce côté-là également. J'ai mentionné que je suis aînée. Donc, évidemment, s'ensuit toutes les responsabilités, la pression qu'il y a à être aînée, mais aussi à être une fille aînée. Tu dois être l'exemple. Tu n'as pas le droit à l'erreur. et tu as aussi la charge mentale qui vient avec.
Personnellement, je ne suis pas fille aînée, mais j'ai grandi justement en portant le poids, ou en tout cas le fardeau, des problèmes de mes petits frères. Parce que du côté de mon père, par exemple, j'ai trois petits frères, bien que je suis la dernière fille de ma mère. Et surtout, je pense que même dans mes relations amicales, j'ai toujours été celle qui écoute beaucoup, qui est toujours présente. Donc, j'ai toujours ressenti le poids, plus ou moins, de la responsabilité. Donc, je peux comprendre que être fille aînée, c'est quand même une pression. Mais comment toi, tu le vis?
Donc, on le sait tous, en tant qu'aînée, tu dois être l'exemple parfait. Donc, tu dois être l'exemple pour tes frères et sœurs. Si tu prends une mauvaise décision, si tu fais un mauvais choix, tu risques de les corrompre. Donc, tu as vraiment cette pression de faire un zéro faute. Ça s'ajoute déjà aussi à la pression qui vient des parents, qui s'attendent à ce que tu puisses vraiment avoir un zéro faute à l'école, à la maison et partout également. Et tu portes aussi une grosse charge mentale, hein, surtout dans mon cas où nous sommes une famille immigrante. Il y a beaucoup de choses, par exemple, que moi j'ai connues au Québec, que mes parents n'ont pas connues avant parce que voilà, ils sont nouveaux dans le pays. Et moi, vu que j'allais au cégep, à l'université, j'ai pu m'exposer à plusieurs choses. Par exemple, quand il a fallu inscrire mes frères et sœurs au secondaire, c'était moi qui faisais le tour des écoles secondaires. Il fallait chercher une bonne école secondaire et s'assurer qu'ils aient vraiment les meilleures, de meilleures opportunités que moi. J'ai pas eu parce que je suis venue quand même assez tard au secondaire ici. Et d'un côté, c'est un honneur, c'est bien, mais c'est quand même assez une grosse charge mentale à porter pour une ado de 14, 15 ans, évidemment. Ma famille me répète souvent que c'est un honneur, qu'ils me font confiance, mais c'est une grosse charge mentale. Même quand on voyage, on va au chalet ou on fait des voyages, mais c'est toi qui t'organises tout. Tu cherches les restaurants, tu planifies. Et c'est bien, on te fait confiance, mais après, les commentaires des gens qui sont pas contents ou bien les avis qui sont pas vraiment positifs, ça vient rajouter et c'est pas très plaisant. Je crois vraiment que le fait d'être aîné, c'est une mission que Dieu te confie, mais comme toute bonne chose, il faut un équilibre.
Je le comprends. En fait, il y a une parentification des filles aînées. En fait, il y a une parentification en fait des jeunes femmes au sein des familles ou au sein des fratries. On sent beaucoup plus vite le poids des responsabilités que par exemple un jeune homme. Quand tu es une jeune fille au sein d'une famille et que tu montres en fait que tu es capable d'être responsable, on va tout de suite te confier beaucoup de responsabilités. Moi, je le sais, je le comprends par rapport à l'organisation des voyages, l'organisation des plans. Ah, mais c'est Sarah qui sait tout. Ah, faut lui confier ça. Oh, elle est très très organisée. Enfin, non, frère, des fois j'ai juste envie de dormir, j'ai envie de me reposer sur les gens aussi. Et je comprends que c'est pas forcément simple, mais je le vois aussi, comme tu l'as dit, comme une grâce, une bénédiction de pouvoir être quelqu'un de responsable, de pouvoir porter en fait une certaine charge, bien que ça peut constituer un certain stress. Et quand tu parles du fait que tes parents s'appuyaient beaucoup sur toi, il faut comprendre aussi que nos parents sont issus d'une génération où est-ce que ils ont eu à beaucoup dealer avec la survie. Donc les histoires de santé mentale et tout là, il y a certains même ils vont mourir, ils comprendront pas ce que c'est que la santé mentale. Surtout dans notre culture, on va dire, oh, mais les trucs de dépression et tout ça, un bail de blanc. Alors que ça touche tout le monde. Et nous, en fait, on est aujourd'hui dans une ère où nos parents ont déjà, en fait, mon père aime dire ça, que moi, j'ai commencé au sous-sol et je vous ai mis au premier. Du coup, c'est à vous, en fait, de perpétuer ce que je vous ai donné et de ne pas le spolier de sorte que vos enfants n'aient pas à venir recommencer là où moi, j'ai commencé, tu vois. Donc, ça met énormément de pression. Ça crée cette culture de la performance, cette culture de vouloir prouver. Et quand t'as des petits frères, souvent, qui ressentent pas cette pression-là, ça peut être frustrant. Justement, en fait, ça me pousse à faire la transition vers cette constante quête de validation, parce que tu commences à rentrer dans un schéma où tu veux être parfaite. On te montre clairement que t'as pas le droit à l'erreur. Et en fait, comment toi, pour toi, concrètement, comment ça se traduit?
Mais comme tu l'as dit, hein, pour moi, c'est vraiment juste vouloir être la fille parfaite, la sœur parfaite, la nièce parfaite, la petite fille parfaite, et même en amitié, l'amie parfaite. De penser que le fait de tout faire bien, d'écouter tout le monde à la lettre, de suivre les règles de la société à la lettre, tout ça, ça va me permettre vraiment d'avoir une vie tranquille, du genre, j'ai fini mes études, j'ai un super travail qui me paye $1 million par année, et voilà, et j'ai un bon mari et des enfants, et puis voilà, ma vie est parfaite.
Ce que j'ai remarqué avec cette quête de perfection, ou en tout cas, ce schéma de la fille ou de la femme parfaite, c'est c'est que à force de vouloir vivre dans les règles, dans les attentes des autres, il y a plusieurs problèmes qui finissent par commencer. C'est que, un, tu arrives à un moment où tu vis une certaine forme d'agacement parce que tu sais pas ce que tu veux, tu vis pour les autres, et à un moment donné, je te dis, mais en fait, quand est-ce que je vais commencer à vivre pour moi? Et quand tu vis pour toi, t'as constamment peur de faire des erreurs, t'as constamment peur, en fait, de prendre le mauvais chemin, et en fait, ça te fout une pression, et en fait, quelque part, même, moi, je l'ai vécu à un moment donné où tu commences à sentir un peu de la colère, à te dire, mais, comme on dit chez nous, Joe, laissez-moi vivre, en fait, genre, tu vois, et soit tu restes dans ce schéma-là, soit tu commences à act out. Donc, ça a plusieurs manifestations. Avant de parler de comment tout ça, cette quête de validation se transpose dans ta vie sociale, on va commencer en fait à la maison. C'est quoi la relation de Daniel avec ses parents en grandissant?
On va direct à la source, hein. Mais avant de commencer cette section, je voudrais vraiment souligner à quel point mes parents sont aimants. Ils sont super aimants et je suis très fière de les avoir comme parents. Je les aime beaucoup. Mais bien évidemment, ils sont humains. Ils ont leurs défauts, leurs traumatismes, comme tu l'as mentionné, et ils ne savent pas tout, surtout la santé mentale. Voilà, ils sont très protecteurs, je dirais même trop protecteurs. Et ça touche un peu à ce que tu as mentionné plus tôt. Parce qu'en élevant un enfant, en le protégeant de tout et de tout, l'enfant prend moins de décisions. Donc tu n'arrives pas à développer ton individualité, tu n'arrives pas à bâtir une confiance en toi, tu ne prends pas de risques en fait. Et tu vas toujours voir papa et maman, que dois-je faire? Quelle est votre expérience? C'est quoi la meilleure décision? C'est bien d'avoir l'expérience des autres, mais c'est aussi très bien de pouvoir se construire en faisant ses propres choix. Mes parents sont aussi très exigeants, comme de vrais Béninois. Ils attendaient presque la perfection de moi, et je peux comprendre, c'était pour mon bien. Ils disent, on t'aime, on veut que tu sois la meilleure, partout, partout. Mais ça crée des blessures, parce que c'est comme si tu n'es jamais assez. Pas assez bosseuse à l'école, pas assez intelligente, pas assez travailleuse à la maison, pas assez douce, jamais assez. Il y a toujours quelque chose qui manque. Que tu sois première de classe et on te dise, oh, c'est bien, tu es... Même pas c'est bien, on te dit, tu es première. Essaie d'être première pour les autres trimestres. Ou tu n'es pas assez ordonnée, tu n'es pas assez gentille, tu n'es pas assez à la maison. Donc, il y a toujours quelque chose qui manque. Donc, il n'y avait jamais vraiment de renforcement positif en grandissant. Et en grandissant, j'en ai parlé à mes parents et ma mère me dit souvent que pour elle, c'était une manière de nous garder humbles. Elle ne voulait pas qu'on ait un ego surdimensionné, qu'on soit trop confiant. Donc, elle essayait vraiment de minimiser au plus les compliments pour qu'on soit humble. Mais malheureusement, ça a créé l'effet totalement contraire et on va en parler plus tard. Avec le recul, je ne suis pas forcément d'accord avec cette approche. Le problème, c'est que quand il n'y a jamais rien de positif qui est dit, ben, qu'est-ce qui vient nourrir l'effort que tu fournis? Tu fais tout ça pourquoi? Ça devient un effet à domino, toujours à la quête de validation. Tu veux entendre ce mot, je suis fière de toi, mais il ne vient jamais. Donc du coup, inconsciemment, je voulais toujours faire plus, toujours, à l'école, à la maison, avec les amis, même avec les parents. Toujours faire plus dans l'espoir de pouvoir entendre ces mots, je suis si fière de toi ma fille, tu as fait ça, tu as fait ci, si bien, je suis fière de toi. Et voilà, ce besoin de validation ne concernait pas que juste mon intelligence, mes performances scolaires ou sociales, c'était aussi sur le plan social, émotionnel et même physique aussi. Je n'ai jamais entendu mes parents me dire « Ah, mais t'es jolie, tu finis de te tresser, ta mère va te dire « Ah, mais t'es jolie, ta coiffure, elle est très belle. » C'est des choses que je n'entendais pas souvent parce que ma mère, elle me disait « Bah, je veux que tu te concentres à l'école. Si je dis que tu es belle, tu vas commencer à mettre trop d'emphase sur ton physique. » Donc vraiment, des choses que j'entendais jamais. Et du coup, comme tu le sais un peu avec mon histoire, bah ça a été en effet dévastateur. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère où je cherchais toujours cette validation, malheureusement. Parce que dans ma tête, je croyais que je n'étais pas assez. Pas assez intelligente, pas assez travailleuse, pas assez jolie.
Alors en effet, on n'a pas beaucoup de renforcement positif et enfin je peux te comprendre parce que moi j'ai grandi par exemple en attendant toujours que mes parents me disent je t'aime. Ah ça c'était chaud.
Je te croyais dans une rom-com.
Ma go, je m'attendais à ce qu'ils me disent je t'aime en fait, mais en fait j'ai compris que nos parents ils savent pas dire je t'aime. Eux pour eux, leur manière de te montrer qu'ils t'aiment, c'est de te scolariser, de s'assurer que t'as un toit, que tu vas dans les meilleures écoles, en fait que tu ne manques de rien. Mais ça tu le comprends plus tard quand tu as pris le temps d'avoir de la compassion pour eux, de déconstruire eux dans quel environnement ils ont grandi. Et de comprendre que bah leur langage d'amour, il est différent. Et je comprends aussi que cette manière de vivre là, bah inévitablement ça crée beaucoup de blessures. Tu as parlé du fait que tu avais un regard très dur sur toi. Tu savais pas que tu étais une belle fille, en passant tu es une très belle femme. savais pas que t'étais belle parce qu'on t'a jamais dit que t'es belle. Donc en fait, tu grandis dans un manque affectif incroyable, de ce que je peux comprendre. Et encore une fois, I can relate to that so much. Parce que tu grandis dans une quête de, s'il vous plaît, regardez-moi, dites-moi que j'en vaux la peine, dites-moi que je mérite d'être aimée, dites-moi au moins que je fais quelque chose de bien. Et c'est tellement éprouvant. D'une part, ça crée des enfants rebelles. D'une autre part, ça crée un enfant qui est très sage, qui sait pas trop ce qu'il veut. Moi, j'ai bifurqué dans le rebelle. Je faisais tout et n'importe quoi. Je pense que, en rétrospective, je le faisais beaucoup pour avoir l'attention de mes parents. Et je me disais que plus, en fait, I would do the most. Moi, j'étais vraiment l'enfant rebelle parce que j'ai eu très tôt un problème avec l'autorité. J'avais toujours besoin de comprendre, mais pourquoi vous me dites de faire ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et aussi, j'ai développé cette quête de perfection-là parce que moi, j'étais une performeuse à l'école, en fait. Très, très forte à l'école. On me disait toujours, mais Sarah, elle est intelligente, Sarah, elle est brillante. Et du coup, ça te développe un ego, mais le truc, c'est que tu ne te connais pas si bien que ça en dehors de performer à l'école. Et comme mes parents, comme toi, me disaient pas, bah, t'es jolie. Moi, du coup, on me disait, ma mère, elle a commencé à me faire faire des régimes quand j'avais 9 ans. Ma mère, elle a commencé à me faire faire des régimes quand j'avais 9 ans. Donc, du coup, je me trouvais jamais assez bien dans ma peau. Donc, tu peux basculer dans plein de trucs. T'as besoin qu'on te regarde. Quand un garçon te dit, oh, t'es belle, t'es là, yes! T'es genre, like, yes! Et en même temps, tu développes un côté un peu mean girl, parce que quand il y a une fille qui est plus jolie, tu te sens automatiquement en compétition. Ça, je le vivais à l'école. Et moi, intérieurement, je détestais toutes les meufs qui étaient les it girls, parce que je me disais, ouais, mais, et moi, et moi, et moi, vous me voyez pas? Donc, pour,
Mais écoute, Sarah, en fait, tu viens de parler de moi parce que c'était pareil avec les régimes et tout. Ma mère, elle me disait, mais regarde comment tu deviens. C'est une phrase enfant, une langue du Bénin. Elle te dit, regarde ce que tu deviens. Dès que tu dis ça, tu comprends que c'est parce que t'as grossi. Et elle te dit, bah, tu as pas le droit de manger ça, va courir, on fait ça. Et je comprends, ça vient d'un profond ou peut-être de ses blessures à elle-même, mais tu le dis pas à une enfant comme ça. Et très similaire à toi aussi, j'ai très vite, bâti mon identité dans l'école. Vraiment, c'était moi, j'étais la fille qui était intelligente à l'école. Et après, ça te mord, hein, ça m'a mordu dans la vie, on va me parler, ça m'a mordu, donc voilà.
Donc là, on a un peu parlé de la maison, tout ça là, en fait. Donc on a parlé du fait que cette constante pression fait que bah on développe une mauvaise estime de soi. On est constamment dans le mérite. On est constamment de, hey, regarde-moi, dis-moi que je vaux la peine, etc. En fait, socialement, et on va un peu rentrer dans le vif du sujet, au niveau des relations amoureuses, par exemple. On peut parler du social, mais je pense que j'ai envie qu'on parle aussi du rapport aux hommes. Comment ça se traduit? Ça ressemble à quoi?
Donc voilà, comme j'avais pas de validation, du coup, je croyais que voilà, je n'attirerais personne ou qu'il y aura personne qui serait intéressé à moi. Et ça m'a poussé vraiment à en faire toujours plus, vraiment toujours plus. Donc le peu de gars potables qu'il y avait qui croisaient mon chemin, bah, je voulais lui montrer que j'étais la femme la plus exceptionnelle de la Terre.
Donc là, je comprends que tu es plus en mode infirmière, en fait. C'est-à-dire que tu étais certainement le genre de femme qui était prête à tout pour avoir de l'attention. Tu sentais que, en fait, dans la vie, tu devais impérativement apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. En fait, je pense que tu comprenais pas que juste le fait d'être Daniel, c'était suffisant. C'était toujours plus, toujours plus, toujours plus. Du coup, en fait, allant dans le vif du sujet, comment tu rencontres celui qui est aujourd'hui ton ex-mari?
Mon ex-mari et moi, on s'est rencontrés en Guinée. Nous avions fait la même école, du primaire au collège. On ne se connaissait pas. On avait même une classe d'écart. Mais à un moment donné, mes enseignants ont voulu me faire sauter de classe. Et c'est là que j'ai rejoint sa classe à lui. Bon, moi, je ne lui parlais pas. Hein, c'est un garçon. J'ai rien à faire avec lui. Je me concentrais sur mes études. Mais un peu comme les enfants s'amusent des fois, il disait qu'il était amoureux de moi. Et moi, ça m'a encore énervée parce que je lui dis, mais moi, je suis là pour les études, c'est quoi ton problème? Donc, ça a fait que je l'ai complètement évité. Et pendant les 9 ans qu'on a fait dans la même classe, écoute, je lui ai jamais adressé la parole. Donc, jusqu'à ce que je déménage au Québec. Et après, quand on a déménagé au Québec, c'était à l'époque où il y avait vraiment Facebook et Messenger. Donc, entre camarades de classe, on s'ajoutait sur les réseaux sociaux. Et voilà, on a essayé de garder contact comme ça. C'était pas un ami, c'est une camarade et on se parle peut-être à chaque 3-4 mois. Coucou, salut, ça va bien, et c'est tout. Et des joyeux anniversaires de temps en temps et bonne année. Voilà un peu ce qui nous liait. Mais entre-temps, il passait toujours par mon meilleur ami pour lui dire « Daniel est en couple, elle est en couple, moi je suis amoureux d'elle. » Et pendant des années, hein. Et moi, je comprenais pas parce que je me dis, mais écoute, toi, t'es à l'autre bout du monde. Moi, j'ai rien à faire avec toi. Moi, je cherche, c'est mes études, en fait. Donc, voilà, il y avait rien. Et ça a continué comme ça. Et jusqu'en 2020, on a fini par se mettre ensemble à distance. Je venais de sortir d'une relation très toxique. Et voilà, celle qui cherchait l'amour que j'étais, bah, j'ai trouvé un homme qui a prétendu m'attendre pendant toutes ces années-là. Alors, j'ai sauté dessus, hein. C'était le jackpot pour moi.
On va te prendre comme la petite sœur, parce que clairement, en fait, je vois que c'est beaucoup d'immaturité. T'étais jeune et c'est normal. Et je crois que la vingtaine, et je crois que dans la vingtaine, en fait, quand on t'a beaucoup serré, quand on t'a beaucoup conditionné, et puis tu le mentionnes encore, quand tu sors d'une relation qui est toxique, tu es vulnérable et tout. Et je pense que les réflexes qu'on a souvent quand on sort d'une relation, c'est un réflexe qui est très mondain, qui est comme If you want to forget about a guy, get under another guy. C'est très bizarre. Parce qu'en fait, en vérité, on devrait prendre le temps d'être avec nous-mêmes. On devrait prendre le temps de se poser, de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, what went wrong, avant de chercher à nouveau à se remettre en couple. Mais clairement, c'est pas ce qui s'est passé. C'est, je suis blessée, je me suis sentie rejetée. Donc, c'est un peu comme, instant validation. Quelqu'un, bah, hey, le gars, ça fait longtemps qu'il m'attend. Oh, hey, voilà quoi. C'est-à-dire que comme ça fait longtemps qu'il m'attend, ça veut dire que forcément, il m'aime. Du coup, pourquoi ne pas y aller? Mais c'est pas vraiment par conviction que tu y vas, si je comprends bien. Donc, je pense que j'ai un peu dressé le tableau, mais je vais te poser la question quand même. Qu'est-ce qui te conduit vers lui?
À vrai dire, c'est le manque d'amour, hein, Sarah. En 2020, je sortais d'une relation très toxique. Vous avez été trompée à plusieurs reprises, manipulée, bref, tu vois, la totale, quoi. Mon ex, donc c'était mon premier copain, d'ailleurs, il avait un style d'attachement un peu avoidant. Et moi, j'étais bien évidemment anxious attached. Donc, voilà, c'était vraiment un cocktail assez malsain. Et j'étais très immature émotionnellement, comme tu l'as mentionné aussi également. Vraiment, c'était pas passant du tout comme environnement. Et je pense que c'est à ce moment-là que vraiment toutes mes blessures ont vraiment commencé à réapparaître en surface. Elles étaient déjà là, mais c'était subtil parce que tu vois, quand tu vas à l'école, tu te concentres, bah, ça apparaît pas trop, mais quand tu commences à côtoyer des personnes, ça se voit. Alors, quand j'ai quitté la relation, où je n'étais ni aimée, ni respectée, ni valorisée, et que moi, je vois ce garçon qui me dit qu'il m'attend depuis le primaire, qui m'a toujours aimée. Et il le disait, hein. Il me disait, je t'ai toujours aimée, malgré toutes les belles femmes que j'ai rencontrées, que je crois, ça me dit rien. Pour moi, tu es la fille parfaite et tout ça. Bah, pour moi, qui avait besoin d'amour, bah, c'était le jackpot. Et en plus, la scène amoureuse à Montréal était catastrophique. Les gars étaient pas sérieux, c'était du n'importe quoi. Donc moi, dans ma tête, j'avais vraiment une mentalité de limitation. Je n'étais pas consciente que j'étais vraiment la fille de l'éternel. Et je pensais que je n'allais jamais rencontrer un gars chrétien de mon âge qui allait être sérieux. Je pensais que voilà, c'était impossible pour moi. Et qui allait être intéressé à moi. Bizarre. Donc, pour moi, ce gars qui m'a attendu pendant des années, c'était le jackpot. Hein. C'était le jackpot. Je me disais, mais comment je suis aussi chanceuse?
Donc là, ça a l'air qu'on est sur un cocktail de perfection, en tout cas, de prime abord. Qu'est-ce qui t'attire chez lui?
Sur papier, c'était l'homme parfait. Il m'a dit qu'il m'aimait éperdument, il m'avait attendu toutes ces années. Bah, il semblait fidèle, hein. Et après tout, il a dit qu'il m'a attendu vraiment pendant toutes ces années. Il était chrétien, ambitieux. Et nous semblions partager les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Donc, tout concordait parfaitement. Sur papier, c'était vraiment, it was heaven sent.
Quand on est constamment dans la quête de validation, on a tendance clairement à obscurcir tous les red flags. Parce qu'en fait, tu me dis, c'est tellement parfait. Je me dis, tu t'es pas posé la question à un moment donné pour te demander, attends, le gars, là, c'est pas trop parfait. Ça a l'air un peu trop chelou, bizarre, son affaire-là.
Ok.
Du coup, comment ça se passe au début?
Donc, comme je l'ai mentionné, mon ex-mari avait toujours manifesté de l'intérêt pour moi, à travers mon meilleur ami. Mais bon, moi, je faisais comme si de rien n'était. Hein. J'ai jamais vraiment laissé rien transparaître. Donc, après la fin de ma première relation, il a saisi l'occasion. Il m'a dit, écoute, Je t'aime, tu es la femme de ma vie. J'ai toujours prié Dieu d'avoir une bonne femme. Et franchement, c'est toi. Tu es intelligente, ambitieuse, vertueuse, la totale en fait. Donc moi, j'entends ça. Une fille qui cherche à la validation. Ah, c'était vraiment du miel à mon oreille. Donc chaque soir, on se parle au téléphone, on s'échange des messages. Il est là, il est constant, il a attentionné. Tout ce que je n'avais pas connu dans ma première relation. C'est un homme qui me dit tout le temps, il me dit tout ce que j'ai besoin d'entendre, vraiment les bons mots. Bon, pour une fille qui manque d'amour et qui avait une très faible estime de soi-même, c'était parfait. Ça remplit mon langage d'amour. Il me dit, tu es la femme la plus parfaite, la plus belle au monde. Non seulement tu es intelligente, mais tu es magnifique. Donc, il me disait vraiment tout ce que j'avais pas entendu et que j'avais envie d'entendre. Il me couvrait de compliments et pour moi, qui avais toujours cherché l'amour et la validation, encore une fois, c'était exactement ce dont j'avais besoin.
Girl. Et non, mais après, je comprends. C'est quand on n'a pas entendu ça pendant des années, c'est du pain béni, en fait, parce que c'est tout ce que on a envie d'entendre. On a envie de savoir qu'on a de la valeur, on a envie de savoir qu'on est chéri. En fait, je pense que de manière intérieure, on a envie d'entendre venant de quelqu'un d'autre tout ce que au plus profond de nous, on sait qu'on est, mais comme on l'a pas entendu assez souvent nous-mêmes, on commence à douter, en fait, de notre qualité. Alors, vous avez fait cette relation-là pendant une bonne partie à distance, c'est ça? Donc, je suppose que c'est à coup de beaucoup de conversations, par texto, beaucoup d'appels téléphoniques. Il est comment au téléphone?
Il faut savoir qu'à ce moment-là, nous ne nous étions pas revus en vrai depuis le secondaire. Hein. Donc, ça faisait environ 7-8 ans quand même. Au téléphone, il est doux, attentionné, très amoureux. Il m'envoie même des fleurs à distance, hein, je te dis. Tout était parfait. Bien sûr, il y avait quelques petits mensonges, des petits red flags, mais vraiment, ils étaient très subtils. Et à ce moment-là, comme on peut le voir, je n'étais pas assez mature pour me les repérer. Je n'avais pas non plus d'expérience amoureuse assez suffisante pour comprendre ce qui se jouait réellement.
Ok. Du coup, en rétrospective, moi, j'ai envie de savoir, aujourd'hui, maintenant que t'as pris du recul et que cette histoire-là est derrière toi, on va arriver à cette histoire de divorce-là. Attendez, soyez patients. On va en parler dans le deuxième épisode. Mais moi, je veux t'emmener, en fait, à la réflexion. Est-ce que aujourd'hui, ayant du recul, ayant fait le travail que t'as fait sur toi, est-ce que tu crois véritablement que tu te mets avec lui par amour, plus dans l'optique de combler un vide, un manque ou tout simplement un besoin affectif?
C'est très drôle que tu me parles de ça parce qu'on en a parlé cette semaine, toi et moi, justement. J'ai réalisé que j'avais cette tendance à... que j'arrête définitivement au nom de Jésus d'ailleurs, ça n'arrivera plus. J'avais cette tendance à aimer une personne, non pas pour ce qu'elle est, mais parce qu'elle m'aime. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé avec lui. Je l'ai aimé parce qu'il m'aimait, parce qu'il disait m'aimer depuis toujours, parce qu'il était un gars bien et qu'un gars bien qui m'aime, qui n'est pas moche, alors pourquoi pas? Mais attention, ce n'est pas que je ne l'aimais pas. Une fois que moi j'aime, vraiment je t'aime, je l'ai aimé sincèrement, je l'ai traité comme un roi. Franchement, il n'a pas eu de problème avec moi, je me suis pas jouée de lui, j'ai vraiment tout donné. Par contre, là-bas, c'était parce qu'il m'aimait que j'ai commencé à m'intéresser à lui. Mais avec le recul, je réalise que j'étais aussi en train de combler plusieurs besoins. Le besoin de validation, très criard. Donc, depuis toujours, j'ai toujours voulu être comprise, être appréciée pour celle que je suis, sans qu'on me dise « tu es bien, mais il faudrait que tu sois mieux. Tu es bien, mais il faut travailler sur ça. Tu es bien, mais il faut changer ça. Tu es bien, mais tu peux faire mieux. » Donc, avec lui, j'avais l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait pour moi et qui m'aimait pour moi, sans avoir besoin de prétendre être une autre personne. Même si, en rétrospective, je me rends compte que je prétendais beaucoup, mais c'était très, très, très subtil. Ça venait combler le besoin criard d'amour. Cette soif d'amour que j'ai traînée depuis l'enfance me poussait à me raccrocher à lui. Et finalement, c'était aussi un échappatoire. J'ai réalisé ça dernièrement que, voilà, en étant aînée, tu as beaucoup de responsabilités, la charge mentale est très forte. Mes parents sont chrétiens, assez stricts. Et il fallait aussi, bien évidemment, tu quittes pas la maison sans être mariée. Donc, je pense que inconsciemment, sans m'en rendre compte, j'ai vu cette relation, j'ai vu ce mariage, ces fiançailles comme une porte de sortie vers mon propre équilibre, mon indépendance, voilà.
Nous arrivons à la fin de ce premier épisode avec Daniel. D'abord, Daniel, je veux te dire merci pour ta transparence. Merci d'avoir été aussi honnête. Ce que j'ai envie de retenir de ce premier épisode, c'est ceci. Déjà, je veux parler premièrement aux parents. Parce que on constate en fait que plus on coince nos enfants, plus on les expose. Je sais que ça part d'un bon sentiment de vouloir les surprotéger parce que, ayant grandi aujourd'hui, on voit à quoi ressemble le monde. On sait à quel point le monde est dangereux. Donc, il y a une véritable volonté de préserver nos enfants. Il y a une véritable volonté de préserver surtout nos filles de tout ce qui est mauvaise influence de l'extérieur. On a envie de les préparer. Je pense que c'était le cas pour tes parents comme pour les miens. On a envie de les préparer à la vie extérieure, de leur donner les meilleures chances parce que on comprend que nos parents ont grandi avec un certain nombre de traumas qu'ils n'ont pas voulu en fait nous transférer. Le problème dans tout ça, c'est que quand on coince quelqu'un, on le pousse à basculer dans une forme de rébellion. Tu l'as dit toi-même que ce mariage-là avec aujourd'hui ton ex était une porte de sortie. Pour toi, tu as eu envie d'expérimenter la vie en dehors de ce que tes parents avait prévu pour toi. Tu as eu envie de te faire ta propre expérience. Ça vient aussi du fait que tu as manqué de validation, tu as manqué en fait de renforcement positif. Et moi, ça me montre qu'en tant que parent, il faut allier la chicotte et la carotte. Il faut éduquer nos filles. De toute façon, il faut éduquer nos enfants à faire attention, mais tout en également leur laissant la latitude de pouvoir faire des erreurs et en ouvrant la porte au dialogue pour qu'ils puissent venir nous parler. On ne peut pas les surprotéger parce que quand tu entres dans la surprotection, à partir de ce moment-là, on laisse la porte également à beaucoup de dérives. J'ai toujours dit que un enfant que tu surprotèges, moi dans mon cas, ça a juste fait de moi ou quelqu'un que tu coinces trop, ça a juste fait de moi une très très bonne menteuse en fait, parce que je savais tellement tourner les choses à mon avantage. Bon, de temps en temps, mes parents me coinçaient quand même. On me catégorisait comme la fille qui aimait garçon. Parce que moi, comme on m'a tellement pas validée, j'avais besoin du regard extérieur. Et ça se traduisait en le fait que j'avais tout le temps... J'étais pas forcément la fille la plus sérieuse. Je voulais de l'amour, mais j'avais aussi peur à cause de l'environnement familial dans lequel j'ai grandi. J'avais aussi peur que... On me largue. Et donc, j'étais tout le temps dans une optique de je vais faire du mal avant qu'on me fasse du mal. Et ça, écoute, ça m'a poussé à faire énormément d'erreurs. Donc, c'est vraiment ça, le conseil que je veux donner aux parents aujourd'hui. C'est vraiment d'être équilibré, de ne pas projeter nos peurs sur nos enfants. Il faut les laisser faire leur expérience tout en étant là pour les garder, pour les protéger. La dernière chose aussi, j'ai apprécié que tu aies honoré tes parents. Nos parents ne sont pas parfaits et je pense qu'on finit par le comprendre quand on entre nous-mêmes à l'âge adulte, quand on a la capacité, quand on sort de nos blessures, quand on a la capacité de voir nos parents pour les humains qu'ils sont. Ouais, donc merci pour ta transparence dans cette première partie. Vous inquiétez pas, dans la deuxième partie, on va parler justement de comment, à quel moment tes yeux s'ouvrent, à quel moment tu te dis... Enfin, cette relation-là, c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce qui finalement te conduit au divorce? C'est vrai que tu commences à ouvrir les yeux. On a eu quelques red flags, le fait qu'il mentait, etc. et tout. Comment tu commences à ouvrir les yeux et comment tu te dis, you know what, il faut que je sorte de ça. Comment tu vis ce divorce? Comment on se reconstruit après tout ça et comment on va de l'avant? Alors franchement, merci Daniel et je vous encourage à rester à l'écoute pour la deuxième partie. À bientôt.
Voilà, c'est la fin de cet épisode vocal. J'espère que cet épisode vous a fait du bien et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Le nom c'est vocal-du-8 the podcast. Et si vous voulez partager vos expériences et vos témoignages sur la question ou sur le témoignage de Daniel, vous pourrez le faire en DM ou en commentaire. On se retrouve dans 2 semaines sur vos plateformes de podcast de prédilection pour partager des réflexions sincères, des témoignages inspirants et des conversations authentiques comme celle d'aujourd'hui. Partage ce podcast à une personne pour qu'elle soit édifiée. À très vite !